Je veux commencer parce que demain, à partir de demain, on va commémorer l'armistice. Et puis, tantôt, j'ai rencontré les responsables de la filiale 265 de Québec qui m'ont remis le coquelicot. Évidemment, on souhaite que le plus de Québécois possible portent le coquelicot jusqu'au 11 novembre pour se rappeler du 11 novembre 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est peut-être une occasion de comparer les sacrifices qu'on demande aux citoyens. Vous savez, actuellement, les restaurants, les gyms, les théâtres sont fermés. On demande des sacrifices aux citoyens. Mais il faut peut-être se rappeler les sacrifices qu'on a demandés aux générations précédentes pour protéger nos droits puis notre démocratie. C'était pas mal plus demandant que ce qu'on a actuellement. C'est peut-être une bonne chose là, de profiter de l'occasion pour s'en souvenir. Bon, aujourd'hui, on a 1030 nouveaux cas. Donc, on reste depuis presque un mois sur le même plateau, autour de 1000 cas par jour. C'est élevé, mais en même temps, c'est sous contrôle. Et puis, je sais que c'est une mince consolation de regarder ce qui se passe ailleurs, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, bien, regardons juste aux États-Unis, toute proportion gardée, bien, ils ont eu hier 80 000 nouveaux cas. Ça veut dire que c'est deux fois plus toute proportion gardée qu'au Québec. Quand on regarde en France, nos cousins, 36 000 nouveaux cas hier, c'est cinq fois plus que nous autres, toute proportion gardée. Puis quand on regarde dans l'ensemble du monde, pour la première fois, on a dépassé le 500 000 nouveaux cas. Donc, un demi-million de nouveaux cas en 24 heures dans le monde. Donc, la situation est vraiment en train de s'aggraver à grandeur de la planète. Et revenons sur la France. La situation, on le voit, ce qui peut arriver si on perd le contrôle, surtout du côté des hospitalisations. En France, c'est presque dramatique. Là, on a plus de 20 000 personnes dans les hôpitaux. Donc, c'est cinq fois plus que nous autres. C'est comme si, au lieu de n'avoir 500, nous autres, dans les hôpitaux, on avait 2500 dans nos hôpitaux. On peut imaginer l'impact que ça a sur les autres services qui sont donnés dans le réseau de la santé. Quand on regarde les mesures aussi qui sont annoncées, hier, le président Macron a annoncé qu'à partir de demain matin, les restaurants, les bars, les gyms vont être fermés, mais il est allé plus loin que nous autres. Tous les commerces qui ne sont pas essentiels, un peu comme on le fait au printemps, vont être fermés en France. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, il faut que tous les Québécois là, prennent conscience que la situation est critique. Donc, le monde ne s'en va pas dans la bonne direction pour ce qui est de la COVID-19. Et les mesures qu'on a mises en place sont pas plus dures au Québec qu'ailleurs dans le monde. Même dans certains cas, c'est le contraire. Puis, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui sont frustrés. Je pense, par exemple, aux propriétaires de restaurants, les propriétaires de gym, les clients. Ce qu'ils nous disent, c'est « j'ai pris toutes les mesures nécessaires, puis là, vous me fermez. » Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le problème, c'est pas les propriétaires, puis c'est pas les efforts qui ont été faits qu'on met en question. C'est qu'actuellement, on n'a pas le choix. Si on ne veut pas voir une explosion comme on voit dans d'autres pays comme en France, bien, il faut prévenir. Et il y a des gens, des propriétaires qui disent, « Oui, mais il n'y en a pas eu d'éclosion dans mon restaurant. » Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'aller au restaurant, avant de rentrer dans le restaurant, après être sorti du restaurant, il y a toujours un risque de contact. Et puis, je pense, moi, le premier, là, c'est pas encore naturel, même après 8 mois, de toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, sans le vouloir, là, sans être de mauvaise foi, il y a des personnes qui vont rencontrer un ami à la porte du restaurant et qui vont s'approcher à moins de 2 mètres. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les contacts, mais réduire aussi les risques de contact. Donc, c'est pour ça qu'on prend les mesures qu'on a prises. Donc, je termine en vous disant, oui, on a mis en place des sacrifices, des mesures. On demande aux gens, puis c'est pas le fun de pas aller au restaurant, pas aller au gym, mais il faut regarder la conséquence si on ne met pas en place ces mesures-là. Aujourd'hui, on a encore 25 nouveaux décès, là. C'est pour ça qu'on demande de faire ces sacrifices-là. Je sais que c'est dur, ce qu'on demande aux Québécois, mais le seul remède qu'on a, là, c'est de s'entraider, de s'épauler et de travailler ensemble à s'en sortir ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on va réussir à passer au travers et on est tous liés, encore une fois, là, les Québécois, plus que jamais. Good afternoon.
Ouais, bon, ben alors, il va faire une petite traduction et après ça, ça va être les questions. Qu'est-ce que tu retiens, Valérie Lebeuf?
Ben, c'est un point de presse. Quand on se compare, on se console.
Ouais.
C'est un petit peu ça.
C'est bien résumé. C'est bien résumé. Ouais. Puis, m'a dire, en France, ça va pas bien, hein? Eh boy, que ça
non,
va pas bien.
Non, puis même que chez les enfants français, à partir de lundi, ils vont devoir porter le masque à partir de l'âge de 6 ans. On impose le masque même aux tout petits là-bas.
Ouais,
non,
ouais.
Ça va pas bien du tout.
J'ai hâte de voir comment les... D'ailleurs, vous pourriez m'écrire au 9-8-9-8-5 ou encore par courriel Drainville à commercial 9-8-5-FM.ca. Comment vous la trouvez, sa comparaison, quand il dit la commémoration du 11 novembre, de l'armistice... le sacrifice des anciens combattants, de tous ceux qui sont morts au champ d'honneur dans les deux grandes guerres mondiales. Mm. Rappelez-vous le sacrifice qu'ils ont fait, là, puis ça relativise le sacrifice que nous, on doit faire aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait réfléchir ou est-ce que vous avez le goût de dire, ben là, franchement, c'est pas un bon argument? Je sais pas, je serais curieux si vous m'écriviez de vous lire là-dessus. Ouais, c'est ça.
Ben, c'est sûr que...
Rappelez-vous, là, eux autres, ils se battaient pour la liberté, mm-hmm. pour la démocratie. Il y en a qui sont décédés. Nous, on dit, ben, mettez-vous un masque, tenez-vous à 2 mètres et puis faites le sacrifice de certaines sorties. Réfléchissons à ça, on s'en va au point de presse.
Sur les attaques, en fait, l'attaque qui a été constatée au sud du centre-ouest de l'île de Montréal, est-ce que vous vous attendez à d'autres attaques sur le système hospitalier québécois? Et quels effets est-ce que ça pourrait avoir sur les services aux citoyens?
Bon. Tout d'abord, je dirais que la situation peut évoluer assez rapidement. Je vais peut-être prendre juste une petite minute pour vous donner ce qu'on comprend présentement. Il y a eu des attaques plus particulières qui ont été faites hier au CIUS du Centre-Ouest. Et rapidement, nos équipes ont réalisé qu'il y avait eu ces attaques-là. Et pour protéger les données notamment hospitalières de la population, la décision a été prise de fermer les systèmes. Parce que la meilleure chose à faire, la meilleure protection, lorsqu'on se rend compte que cette attaque-là, elle est importante, puis ce qu'on comprend, là, puis je vous dis qu'on est en train de chercher, c'est que c'est pas juste au Québec, là, ça serait probablement plus large que ça, l'attaque qui a été faite, comme vous le savez. Ce que je comprends aussi, c'est que c'est peut-être pas uniquement au CIUS de Centre-Ouest. Là, j'entendais ce matin avec les gens avec qui on parle qu'il y a peut-être d'autres centres qui ont été touchés. Mais encore une fois, l'approche que l'on prend, c'est de protéger les données personnelles. Maintenant, ce que ça implique, c'est que ça va obliger, par exemple, là, je vous donne un exemple, on protège les données personnelles, on ferme le système, mais il va y avoir des rendez-vous qui vont devoir être repris parce que là, le CLSC, par exemple, de ce CIUS-là, ne peut plus avoir accès au système pour aller vérifier le rendez-vous. Mais on trouve que c'est un petit sacrifice à faire comparaison à la prise de données. On a mis toute notre expertise, non seulement au ministère de la Santé, puis je terminerai là-dessus, avec notre nouveau groupe là, qui est piloté par le ministère, ce qu'on appelle le groupe de cyberdéfense, pour voir aussi, en collaboration avec la GRC, tout le travail qui peut être fait pour regarder si, justement, ça dépasse les cadres du Québec. Mais ce que je rassurerais la population jusqu'à maintenant, là, notre lecture, c'est qu'on a décidé de fermer les systèmes pour s'assurer qu'il y avait un contrôle sur nos données. Puis on est en train de travailler notamment avec Microsoft pour regarder tout l'impact que ça peut avoir et comment on fait pour rester, de garder la situation sous contrôle.
Merci. Monsieur Legault, sur la sanction recommandée par la commissaire à l'éthique par rapport au ministre de l'Économie, est-ce que sur la faute qui est rapportée, est-ce que c'est une faute pardonnable? Et est-ce que vous allez demander à votre caucus de voter contre une sanction?
Bon. D'abord, moi, j'ai totalement confiance à la commissaire à l'éthique. Là, ça, c'est important de le préciser. Et le ministre d'Économie, pour moi, il était imprudent. Il n'aurait pas dû rencontrer un ami avec des projets. Puis il l'a admis tantôt en point de presse qu'il avait été imprudent. Maintenant, contrairement aux libéraux qui avaient voté contre le rapport de la commissaire à l'éthique sur Pierre Paradis, moi, je vais recommander à mon caucus, puis moi, personnellement, je vais voter pour le rapport de la commissaire à l'éthique. Maintenant, je veux quand même revenir rapidement sur le dossier. Le ministre de l'Économie a rencontré un ami qui est venu y présenter trois projets. Deux projets avec des entreprises, puis un projet avec une municipalité. Les deux projets avec les entreprises ont été refusés. Le projet avec la municipalité a été accepté, mais par un autre ministre. C'est pas le ministre de l'Économie qui s'en est occupé. Et moi, ce que je veux dire, là, pour en avoir jasé avec lui, c'est qu'il était de bonne foi. Peut-être c'est un manque d'expérience, je vous le dis, puis je lui ai dit, c'était pas une bonne idée de rencontrer son ami, mais le ministre de l'Économie, lui, il se dit, là, moi, plus qu'il y a de projets, là, plus ça fait mon affaire. Moi, je suis venu en politique pour qu'on fasse exploser les projets au Québec. Fait que lui, il se disait, bien, même si c'est un ami, pas un ami, tous les projets vont être évalués au mérite et la commissaire à l'éthique l'a confirmé, là, il n'a jamais été question qu'il mette de l'argent dans ses poches, qu'il y ait des avantages financiers pour le ministre de l'Économie là-dedans. Là. Ça c'est important de comprendre. Donc, je pense qu'il était totalement de bonne foi en disant « emmenez-moi-en des projets » et bon, je pense que là, il a eu sa leçon. Je pense que quand on parle de c'est quoi la conséquence, je pense qu'il a déjà eu sa conséquence. Le fait que vous en parlez dans les médias, je pense que c'est la pire réprimande qu'on ne peut pas souhaiter avoir, là, de trouver son nom. Je pense qu'il a eu sa leçon. Puis moi, je pense que pour moi, le dossier est clos.
Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Donc, M. le Premier ministre, on comprend que vous n'allez pas lui demander de démissionner ou de céder sa place. Vous le défendez bec et ongle. M. Fitzgibbon reste ministre de l'Économie.
Ce que je dis, c'est qu'il a été imprudent. Il n'aurait pas dû rencontrer son ami parce que même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien, c'est assez évident là, que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre que quelqu'un qui n'est pas ami, donc il y a un problème d'équité. C'est arrivé au début de son mandat. Je pense qu'il a eu une belle carrière dans l'entreprise privée. Là, il venait pour servir la population, pour servir le Québec. Il était de bonne foi. Donc, je ne dis pas qu'il a bien fait, là. Il n'aurait pas dû. Il est imprudent. Il l'a admis qu'il était imprudent. Maintenant, il était de bonne foi et pour moi, je tourne la page.
Monsieur le ministre de la Santé, actuellement, en Montérégie, il y a un directeur général qui est suspendu. Est-ce que c'est l'application de l'imputabilité qui vient d'arriver pour la première fois depuis le début de la pandémie?
Ben, écoutez, premièrement, je veux que les gens comprennent bien que c'est une décision qui relève du PDG de Montérégie Centre. Donc, moi, je pense qu'après, si je comprends la situation très bien, c'est qu'il y a eu une analyse de ce qui s'est passé, notamment au CHSLD, pardon, de Sainte-Croix. Puis après avoir analysé les faits, il y a eu une décision qui a été prise par le ministre responsable, puis effectivement par le responsable local que nous avons mis en place. Et cette décision-là, elle s'est faite dans un contexte, effectivement, M. Laforêt, de responsabilité et d'imputabilité. Puis moi, je vais respecter la décision du PDG.
Patrick Bellerose, le Journal de Québec.
Oui, bonjour à tous. Question pour le Dr. Arruda. Vous avez sûrement vu le Dr. Arruda.
Oui, bonjour.
J'ai sûrement entendu les propos d'Anthony Fauci aux États-Unis qui parle d'un retour à la normale d'ici début 2022, donc autrement dit, le temps d'avoir un vaccin, d'inoculer les gens, que le virus meurt. Est-ce que vous faites la même lecture pour le Québec?
J'espère que ça ne sera pas exactement pareil un peu plus tôt, compte tenu de la quantité de virus qui circule chez nous. Il faut voir que plus on part élevé, plus ça prend du temps à diminuer. C'est sûr que tout ça va être dépendant, à mon avis, du vaccin qu'on va avoir et jusqu'à quel point le vaccin va être efficace pour prévenir les cas et les complications, particulièrement chez les personnes à haut risque et chez nos travailleurs de la santé, bien entendu, qu'on va pouvoir protéger. J'ai comme l'impression aussi, par contre, qu'on va devoir redéfinir un certain équilibre de fonctionnement, là, dans une société qui va être capable à la fois de tolérer un certain niveau de base de cas sans mettre en péril complètement mais pour ce qui est du port du masque, des mesures d'hygiène et de distanciation, je pense qu'on va être pris pour un certain moment. Par contre, je ne pense pas qu'on va pouvoir rester en confinement total ou revenir en confinement total comme est presque en train de faire la France là, pendant de très longues périodes parce qu'il y a des effets pervers importants. Vous savez, protéger nos écoles, c'est un élément important parce que c'est protéger aussi l'éducation de nos jeunes, une génération. Ça va manquer 3 mois d'école, là, mais manquer 2-3 ans, particulièrement pour les clientèles les plus vulnérables, ça va être important. Donc, je pense qu'il faut placer ça en perspective et faire le maximum pour raccourcir la période comme telle. Mais le vaccin, à mon avis, ou une thérapie, va devenir des éléments clés.
Donc, j'en comprends que quand même pour vous, les mesures barrières vont devoir rester jusqu'environ 2022. Est-ce qu'il y a des restrictions, certaines restrictions, qui pourraient devoir rester aussi?
Je vous dirais, tout ce qu'on va faire, c'est ce qui va permettre... Vous savez, si la société fonctionnait normalement, avec toujours une distanciation de 2 mètres, puis un pauvre visage, etc., on aurait des taux très faibles. Mais c'est pas ça la réalité. Fait que je vous dirais juste que probablement qu'on va réapprendre à maintenir une distance plus grande avec le temps, comme on a appris à vivre avec le masque maintenant. Le masque était très mal porté au début. Maintenant, de plus en plus, les gens le portent bien. Fait que je pense qu'on va être obligé d'en arriver à cette stabilité-là. Mais je veux pas rester sans espoir. Il est possible qu'on ait un vaccin, même en sol québécois et canadien, dès le début de l'hiver, janvier-février prochain. Donc, je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. C'est difficile de nous projeter, mais il ne faut pas non plus se raconter en pensant que tout va être fini en juin l'année prochaine. Je pense que ça serait peut-être un peu... Entre les deux, il y a comme quelque chose à réévaluer.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Il y a une semaine, une baisse lente mais soutenue des hospitalisations. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou on peut pas en tirer vraiment de...
Écoutez, j'ai appris à être très prudent au cours des derniers mois. Là. Je pense que d'avoir stabilisé, comme le disait le premier ministre, le nombre de cas à environ 1000 cas par jour depuis plusieurs semaines, c'est à peu près normal que l'effet sur les hospitalisations se soient aussi stabilisées. Ça fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Puis rappelez-vous, quand je vous parle de l'étude de l'INES qu'on sort une fois par semaine, démontrait ça, que si on était capable de stabiliser les cas, qu'on aurait une certaine stabilisation dans les hospitalisations. Donc, le modèle de l'INES fonctionne bien. Puis je pense que là-dessus, on doit saluer les Québécois. Mais je le répète, par exemple, que 500 hospitalisations, c'est encore élevé parce que dans certaines régions, comme dans la capitale nationale, ça nous fait mal. Mais je crois que si on veut se donner une marge de manœuvre, bien, il faut le baisser en bas de 500 hospitalisations. Alors, donc, c'est pour ça qu'on continue à dire aux Québécois qu'il faut respecter les mesures sanitaires, même si on pense qu'on a gagné la moitié de l'objectif de stabiliser dans ce contexte-là, il faudrait continuer à baisser le nombre de cas.
On apprenait ce matin qu'il y a des patients de l'Institut en santé mentale de Québec qui ont été privés de soins de base par manque de personnel à cause de la COVID. Comment c'est encore possible après 8 mois de pandémie? Est-ce qu'il y avait un manque de préparation dans cette institution-là?
Bien, écoutez, on a mis beaucoup d'emphase sur les CHSLD, sur les RPA, les RI. Là, on parle d'un centre hospitalier où on peut dire qu'on avait été assez bien immunisé dans la première vague. Et je pense que dans la région de Québec, là, on voit vraiment l'effet de ce qu'on disait, qu'à un moment donné, ça va finir par paraître dans les hospitalisations puis dans le réseau. Alors, donc, on en a une preuve en ce moment. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai demandé est-ce qu'on allait faire une vérification de ce qui est vraiment arrivé, parce que s'il y a eu des gens qui ont manqué de... qui n'ont pas été assez hydratés, là, c'est assez grave. Fait que c'est certain que tout de suite, quand j'ai appris ça, là, j'ai demandé au ministère de me faire un rapport, puisque je vais savoir dans les prochaines heures.
Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
Bonjour à vous trois. Vous avez probablement pris connaissance de la lettre de 700 médecins qui dénonçaient la trop grande centralisation du réseau. Ces mêmes médecins ont aussi émis un rapport en juin qui vous a été remis. Pourquoi il y aurait encore de l'omerta dans le réseau chez les professionnels de soins, comme on le dit actuellement? Et étiez-vous au courant des décisions qui ont été refusées dans des hôpitaux? Ces décisions-là qui auraient pu sauver des vies, puis qui, au contraire, ont causé des morts parce qu'on ne pouvait même pas poser, par exemple, des parois dans un hôpital.
J'ai pas pris connaissance du rapport dont vous parlez. Je vais premièrement en prendre connaissance. J'ai demandé aux gens de mon ministère de prendre connaissance de ce rapport-là parce que je ne l'ai pas vu, première chose. Mais il y a une chose, je pense, qui est importante de dire, c'est que le message de ces médecins-là, puis j'ai pris connaissance de la lettre, là, comme bien des Québécois ce matin, puis je vais faire un parallèle entre ce qu'on a fait depuis qu'on est là, c'est que la principale critique de ces 700 médecins-là, c'est de dire que la réforme qui a été mise en place par les libéraux, la réforme Barrette, comme on l'appelle, elle a eu des effets excessivement négatifs dans la gestion locale. Et vous avez vu ce qu'on a fait pour remédier à ça avec les CHSLD. On a dit qu'on ne peut pas continuer d'avoir cette gestion-là où les expertises locales, les décisions locales ne peuvent pas être prises. Puis l'exemple des CHSLD, on a dit qu'on n'a pas besoin de changer la structure, mais on doit changer la gouvernance. Puis je pense qu'on l'a montré comment c'était important d'avoir une gestion locale dans les CHSLD. Alors moi, vous allez me laisser prendre connaissance du rapport dont on parle, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Et quand j'aurai pris connaissance de ce rapport-là, parce que j'ai déjà, moi, avec mon équipe, avec la sous-ministre responsable, Mme Savoie, on a déjà établi pas mal de discussions régulières avec les PDG, mais aussi avec des différentes équipes médicales. Alors moi, si ces gens-là ont des suggestions à me faire, je le répète, qu'on n'a pas eu peur d'appliquer pour changer la gouvernance dans les CHSLD, bien, si on doit faire des ajustements au niveau, par exemple, des centres hospitaliers, on va les faire. Mais je suis ouvert à ça. Mais l'objectif, puis je comprends pourquoi ils sont déçus, c'est que cette réforme Barrette-là, elle a énormément centralisé les décisions, puis empêche une agilité au niveau local, ce que nous avons ramené au niveau des CHSLD, puis au besoin, on va le faire dans d'autres secteurs.
Oui, ça, c'est très important. Luc Lavoie, là, rebonjour.
Rebonjour.
Dans le fond, il dit, j'ai décidé de nommer un patron ou une patronne par CHSLD parce qu'il n'y en avait plus. Et puis, s'il faut nommer un patron ou une patronne par hôpital, bien, on le fera.
Bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça m'apparaît aussi évident et même plus dans un hôpital que dans un CHSLD. Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui... Je vois trois choses dans le point de presse. D'abord, M. Legault qui tient à ses comparaisons parce que j'imagine qu'il en a marre de se faire dire que nous sommes en queue de peloton au Québec.
Oui.
Alors, il fait toutes sortes de comparaisons, dont une avec les efforts demandés aux citoyens pendant les deux grandes guerres, particulièrement oui. La Première Guerre mondiale.
Oui, j'ai demandé d'ailleurs aux auditeurs de réagir à ça. Je vais te dire, Luc, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Il y en a beaucoup qui disent « bravo, bonne comparaison, justement, on peut-tu mettre les choses en perspective puis se rappeler du sacrifice immense de nos soldats? » Mais il y en a quelques-uns, dont un parent d'un ancien combattant qui se sent un petit peu insulté par la comparaison.
Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'insultant, parce que j'aimerais rappeler aux gens que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait la conscription. Si tu ne t'enroulais pas, on allait te chercher chez vous, il y a des gens qui allaient se cacher dans les forêts.
Dans les îles de Sorel-Berthier, d'où je viens, il y a des gens qui se sont cachés dans les îles, Luc.
Ah oui,
bon. Oui, absolument.
Et les gens qui s'en allaient au combat en Europe, là, si à un moment donné, il y avait une panique parce qu'il y avait peur, parce qu'ils étaient à bout de nerfs, tout ça, ils étaient abattus par leur propre commandant, n'est-ce pas? Il y a eu je ne sais pas combien de centaines de Canadiens qui ont été passés par les armes par des soldats canadiens. Alors, je veux dire, la comparaison... En tout cas, elle ramène les choses en perspective, mais disons que c'est fort, c'est très fort.
Alors, je te le cite, là, mon grand-père Gaétan, c'est un texto, mon grand-père Gaétan est à côté de moi, il vient d'entendre Legault, il a 101 ans, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il me dit qu'il se sent insulté, que ce n'est pas comparable, lui devait partir au front sans savoir s'il allait revenir, les jeunes d'aujourd'hui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas aller au gym, ce sont ses mots.
Oui, mais dans ce sens-là, je trouve que la comparaison a quelque chose de valable. Tu dis, c'est effrayant ce qu'on demande aux citoyens. Pensez donc à ce qu'on leur demandait il y a 100 ans. C'est incroyable. Je veux dire, tu veux pas aller au feu, on va t'abattre nous autres mêmes.
Dans le fond, pour reprendre un peu ce que tu dis, la réponse que tu donnerais dans le fond à Gaétan, au grand-papa, c'est vous êtes pas insulté par la comparaison que Legault fait. Vous êtes insulté par le fait que les jeunes d'aujourd'hui braillent parce qu'ils peuvent pas aller au gym.
Je pense que c'est plus ça. Moi aussi, c'est plus ça que j'ai compris.
Oui, je comprends.
Il y a un deuxième morceau du point de presse qui, lui, porte sur la déclaration du docteur Fauci, le grand gourou américain d'épidémiologie, et qui dit « il y aura pas de retour à la normale avant le début 2022 », c'est-à-dire dans 14-15 mois. Alors, on demande à M. Arruda ce qu'il en pense. Il n'a pas dit que c'était faux. Il a dit « on va essayer d'aller plus vite, puis il va falloir se mettre dans la tête qu'en juin 2021, ceux qui rêvent qu'ils vont aller voir des matchs de football, puis de baseball, puis ainsi de suite, oubliez ça, en juin 2021, dit-il, ça ne sera pas réglé encore une fois. » Et puis, un troisième sujet qui est complètement ailleurs, c'est le rapport de la commissaire à l'éthique sur le ministre Fitzgibbon.
Oui.
Je te dis qu'il...
T'as-tu le temps de... Parce que, écoute, évidemment, aujourd'hui, là, il y avait le traversier, il y avait plein d'annonces dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Essentiellement, là, j'irai pas dans le détail, mais la commissaire à l'éthique, elle blâme le ministre de l'Économie. Elle dit qu'il s'est placé en conflit d'intérêts parce qu'il a rencontré un ami et elle recommande une sanction. À ma connaissance, Luc, c'est la première fois que le gouvernement va voter pour que des sanctions soient imposées sur un ministre du gouvernement.
Lesquelles sanctions? C'est pas clair.
Non, ça, c'est pas clair encore.
Dans un rôle de position, le premier ministre, où il sait, puis il dit
ça, c'est prévu au code. Les différents types de sanctions sont prévus au code, code d'éthique. Mais je suis pas capable de te le donner, je l'ai pas sous les yeux, là. J'ai pas le code sous les yeux,
Est-ce que ça peut être une suspension? Est-ce que ça peut être
Ça, honnêtement, Ben, la sanction ultime, si je ne me trompe pas, c'était carrément l'expulsion là, de la Chambre. Là, mais là, ça prend un vote aux deux tiers. C'est pour ça que c'est important quand le premier ministre dit « Mes députés vont voter pour les sanctions, donc il y aura deux tiers. » Donc, la sanction, ça va être quoi? Écoute, Luc, je n'ai pas le code d'éthique. Je vais demander à Alexandra, là, qui est là de l'autre côté, de me le trouver. Mais il y a une gradation. Il y a une gradation, puis je vais te donner la réponse à 14 heures quand on va se reparler, OK?
OK, d'accord, mais j'allais te dire une chose. Je pense que le ministre Fitzgibbon est connu pour être quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, puis tout ça. D'entendre le premier ministre dire « il a été imprudent, c'est son manque d'expérience, voilà, ce rapport-là est une grande réprimande, il a été imprudent ». Le fait de rencontrer des amis pose un problème d'équité pour ceux qui sont pas amis. Je te dis que j'ai pas vu souvent ça, un premier ministre aller aussi loin que ça. Ouh,
ouais, puis quand
c'est un ami intime de M. Legault.
Puis quand il dit de M. Legault, tu veux dire de M. Fitzgibbon?
M. Fitzgibbon est un...
Un ami de Legault, oui, absolument. Voilà. Non, mais tu as raison de dire que Legault dit... Fitzgibbon l'a reconnu tout à l'heure, là, il a été imprudent. Je vais te dire, quand tu lis la dépêche de Tommy Chouinard, Fitzgibbon a reconnu du bout des lèvres peut-être une imprudence.
Ben oui.
Tu comprends?
Ben
oui. Puis quand tu parles d'orgueil, on sent dans le texte de Chouinard que Fitzgibbon, ça y tente pas de reconnaître son erreur. Et d'ailleurs, la commissaire à l'éthique, elle dit, écoute, c'est important, Luc, elle note dans son rapport que même après avoir pris connaissance de son analyse à elle, là, la commissaire, à l'égard des faits sous enquête, le ministre maintient qu'il n'a commis aucun manquement au code d'éthique. Et je la cite, « Je ne dénote ainsi, dis-je, aucune volonté réelle de s'amender, ajoute-t-elle, ce qui a contribué à sa décision de recommander une sanction. » En d'autres mots, le fait que Fitzgibbon ne reconnaisse pas son erreur, ça l'amène à durcir sa recommandation et à dire « Bon, ben là, si tu veux pas comprendre, je vais t'imposer une sanction. » Et là, Legault vient de dire « Bon, on va la voter. »
Ben, tu vois, ça me rappelle une chose. Quelqu'un que je peux pas nommer, mais qui connaît très bien Fitzgibbon, me disait il y a à peu près 6 mois qu'il était pas heureux en politique, que c'était un monde où il se sentait pas parfaitement à l'aise. Ça me rappelle un peu le cas de Jacques Daou dans le gouvernement de Couillard, et que la personne me disait « Je m'attends à ce qu'il ne termine pas le premier mandat. » Je regarde ça aller, là, le ton du premier ministre, le ton de la commissaire à l'éthique, l'engagement du premier ministre à appuyer le rapport, tout ça, ça mène vers une démission éventuellement.
Ouais.
Je la prédis pas, là, mais c'est comme un pas qui ressemble à ça.
Tu dis que ça crée les conditions qui pourraient l'amener à partir.
Absolument.
Ben, ça serait une grosse, ça serait évidemment une grosse perte
pour
l'équipe économique. Une grosse perte également pour l'équipe économique de Legault.
OK. Ben, j'aimerais bien savoir ce qu'il a accompli, M. Fitzgibbon, depuis qu'il est là, avant de dire ça.
Ben, Luc, c'est
il
lui.
Il a parlé beaucoup, là.
Il a remanié, notamment, Investissement Québec, là. On attend les résultats, c'est ça que tu vas me dire?
On attend les résultats.
Ah oui, on attend les résultats.
Puis il a lancé le panier bleu. À part de ça, il a fait pas mal de blabla, là.
Ouais. Ouais. Mais regarde, ça fait 2 ans qu'ils sont là, Luc. Soyons un petit peu plus patients, là.
Moi, je demande pas sa démission. Je te dis juste qu'on dirait que ça mène vers ça.
Ouais. Ben, c'est sûr. Moi, j'entends les mêmes choses que toi, là. Puis c'est pas la première fois, là, qu'il se fait prendre un petit peu à faire des... Dans ce cas-ci, c'est carrément une erreur, là.
Les gens oublient.
Mais il a fait des déclarations controversées, malhabiles.
Ben, oublie pas qu'il est poursuivi en justice par Sylvie Lalande, la présidente du conseil de TVA.
Oui, aussi.
Pour des propos qu'il a tenus. Alors, tu sais, la politique, là, c'est un métier qui s'apprend. Puis les hommes d'affaires qui arrivent là-dedans puis qui disent « Ah, oh, moi, je vais te faire marcher ça
ouais. »,
on a vu d'autres.
Ouais. Je vais pas prendre sa défense, Luc, mais en même temps, si on veut des entrepreneurs en politique, il va falloir accepter à un moment donné qu'ils sont un peu carrés dans leur manière de faire. Tu comprends? Moi, je l'ai défendu, Fitzgibbon, depuis qu'il est en politique, puis il y a eu deux... Puis je disais pas là, qu'il avait bien fait. Là. Je disais, il a commis une erreur. Il aurait pas dû dire ceci. Il aurait pas dû dire cela. Mais à bout de ligne, je finissais toujours par dire, mais... Regardez, là, si on veut pas juste des diplômés des facultés de sciences sociales puis des avocats
des journalistes
en politique, si on veut à un moment donné du monde qui ont géré de la business, ben va falloir accepter ce qui vient avec. Puis ce qui vient avec, des fois, c'est des gars d'action, des femmes d'action qui sont pas habitués de tu sais, ils font un appel, ils prennent une décision, ils ont l'esprit d'initiative, des fois ils brassent un peu la carte. Mais attends, Luc Lavoie, me semble que tu comprends ça, toi, là.
Oui, mais par ailleurs, moi j'aime ça qui peu importe l'horizon dont ils sont issus. J'aime qu'on aille au-delà du blablabla, puis j'aimerais connaître ses réalisations à l'heure actuelle. Okay, tu me parles d'Investissement là, Québec, j'ai pas vu de chiffre encore.
Là, tu t'en prends, oui, c'est ça. Tu dis, ben donne-moi des résultats. OK. On se reparle un peu plus tard.
OK.
Après la pause, la directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes. Ça fait plusieurs années qu'elle dirige le refuge. Elle vient d'écrire un livre. Alors, on prend un petit break, des mauvaises nouvelles, des nouvelles controversées, de la COVID, puis on s'en va dans quelque chose de beau. Après la pause.